m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, il est 17h30, bienvenue dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30. Au programme de cette émission, deux invités. Nous recevons tout d'abord Michel Maffezoli, sociologue, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut Universitaire de France, qui sort ses mémoires intellectuelles, Mes tribus, souvenirs, pensées, rencontres, paru aux éditions du Cerf, plus de 50 ans d'une aventure intellectuelle hors norme, de son enfance dans un village de mineurs du Languedoc, jusqu'au chaire de la Sorbonne en passant par ses maîtres Freun et Durand et ses grandes amitiés intellectuelles du monde entier. Bref, autant vous dire qu'on a plein de choses à dire et surtout il y a plein de choses à nous raconter et qu'en une heure ça arrive d'être un peu court, mais c'est ainsi. Et à 18h30, nous recevrons Maxime Dahl, directeur de la publication de la revue Raskar Kapak, qui vient de consacrer un numéro spécial à Henri de Monterland, un numéro de haute tenue pour célébrer l'un des écrivains les plus injustement méconnus aujourd'hui. Et c'est bien dommage. Alors je vous rappelle, chers auditeurs, vous pouvez participer à l'émission, poser vos questions à nos invités par courriel et par téléphone. Michel Maffezoli, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, chers auditeurs, que Michel Maffezoli ne boit jamais d'eau. Ce que j'ai appris il y a un quart d'heure. Voilà.
Alors, oui.
Il boit du vin tout le temps. Ce qui est rassurant.
Je vous
quand on...
la bouteille. Je
ah, c'est genre, voilà. Il nous donne la bouteille d'eau. Et alors, il est habillé magnifiquement, contrairement à nous qui ressemblons à des cachalots échoués sur une plage. Et il est encore très en forme, donc ça donne envie de boire que du vin. Voilà, ce sera les bonnes résolutions de l'année 2026, bien qu'elle ait déjà commencé. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes sociologue, tout le monde vous connaît évidemment, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut Universitaire de France, élève de Freun et de Durand. Vous avez consacré votre vie à comprendre ce que la sociologie académique ne voulait pas vraiment voir, savoir le quotidien, l'imaginaire, le sensible, la vie ordinaire des gens ordinaires. Et donc en 88, vous publiez Le Temps des Tribus, un livre qui fera le tour du monde, et donc dans lequel vous introduisez la notion de tribu, c'est-à-dire qu'en visionnaire, vous annoncez déjà le retour des dynamiques tribales et l'émergence de l'idéal communautaire. Et donc aujourd'hui, vous publiez chez au CERF, vos mémoires intellectuelles, mais pas que, Mes tribus, souvenirs, pensées et rencontres, donc aux éditions du CERF. Le voici, chers auditeurs. Donc un livre qui remonte aux sources, donc de votre enfance, de vos maîtres, les combats, les amitiés et vos convictions, évidemment. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de nous plonger dans votre vie, eh ben nous avons une tradition, celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Michel Maffezoli, s'il ne fallait garder qu'une seule tribu, ce serait laquelle?
C'est pas possible pour moi.
Ah.
Je suis un théoricien de, de la mosaïque. Hein, c'est-à-dire, je considère qu'on est en train de quitter, c'est pas facile à dire, ça passe pas très bien, la République une et indivisible. Hein, qui est cette vieille chose que l'on a héritée du 19e siècle. Mon compatriote que j'aime beaucoup, un fou génial qui s'appelle Auguste Comte, c'est lui qui a défini ce qu'était la sociologie, et il disait bellement « reductio ad unum », réduire à l'un. Et c'est ainsi qu'on pensait l'état-nation, l'individu, machin chose, etc. Bon, au contraire, j'ai essayé de montrer qu'on est en train de passer dans une autre époque, il faudra en parler, hein, c'est ma postmodernité, mon dada théorique, hein, où justement c'est... Si je cite ici Nicolas de Cuse, hein, ce grand penseur du 14e, « coincidentia oppositorum », hein, la coïncidence des choses opposées. Donc pour moi, non, il y a pas, on ne peut pas garder une tribu. Il faut apprendre à gérer, et c'est ça le problème qui n'est pas facile actuellement. Une res publica, une chose publique qui va se constituer à partir de, j'ai dit, mosaïque. Une cohésion, et chaque pièce de la mosaïque garde sa configuration, sa structure, sa couleur. Voilà, cher ami, ce que j'essaie de développer.
Et on reviendra dessus, évidemment, ensuite. La modernité en un mot.
Non, en un mot, je ne peux pas, excusez-moi. Non,
je vais répondre à mes questions.
Et non, parce que pour moi, il y a trois mots. pour la modernité. Ah, ça va. Parce allez, après, ça vous va. Posez trois mots après, mais bah, moi, c'est individualisme, rationalisme et progressisme. Voilà, tout mon travail a été de montrer comment, depuis Descartes, 17e, philosophie des Lumières 18e, grands systèmes sociaux, d'obédience hegeliano-marxiste, reposait sur ces trois pivots. Et Michel Foucault a bien montré, d'ailleurs, parce qu'il a bien montré comment se sont constituées les institutions au 19e sur cette base-là. Voilà le trépied.
Et donc la postmodernité en trois mots.
Pareil, il y a toujours, quand chaque époque repose sur un trépied, un tripode, peu importe le terme. Et pour moi, bien sûr, c'est tribu, émotionnel et tradition. C'est-à-dire, la tradition, c'est ce que disait Léon Blois, le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. Voilà. Donc, on est en train de passer de cet individualisme, alors que cet individualisme est essentiellement dominant, ceux qui n'ont rien à dire actuellement, hein, c'est-à-dire les politiques, les journalistes, les experts de tous ordres, eh bien, ils disent compte tenu de l'individualisme contemporain, hein, virgule. Et il suffit de sortir dans la rue pour voir que nos gosses sont téléphone portable à la main, toujours en relation avec l'autre. C'est ça, la tribu. Et non plus simplement le grand rouleau compresseur du rationalisme qui a marqué en effet la modernité. Moi, je dis un terme qui n'est pas français, hein, c'est un terme de Max Weber, émotionnel, hein, c'est-à-dire une ambiance dans laquelle on se situe. C'est ça l'émotionnel, les affects, les passions, etc., que l'on avait évacués et qui reviennent. Et puis, je sais que c'est un peu délicat, et mes chers collègues me l'ont toujours reproché, la tradition, hein, tradare, ce qui a été donné, on le transporte. Et pour moi, de diverses manières, il y a ce retour de la tradition.
Vous êtes plutôt Bourdieu ou Durkheim ?
Cher ami, j'ai occupé pendant 35 ans la chaire de Durkheim, hein, puisque c'est à partir de 81, ça a scandalisé pas mal de mes collègues, mais j'ai occupé cette chaire. Donc, il m'a fallu m'y mettre, je n'aimais pas Durkheim. Mais j'ai fait, par exemple, une grosse introduction aux formes élémentaires de la vie religieuse, hein, qui est paru en poche, et puis pas que, etc. Et je me suis rendu compte que Durkheim n'était pas le positiviste que l'on dit, ou que l'on disait trop souvent, mais qu'il y avait cette ouverture. Le livre que je viens de citer en est un exemple, et bien d'autres comme ça. Hein. J'ai préfacé trois livres de Durkheim, même dans ma carrière, etc. Bien. Bon, Bourdieu, j'explique dans ce livre le seul déjeuner que nous eûmes ensemble, et qui marquait notre énorme séparation. Bourdieu, pour moi, c'est un scandale, un escroc. Sa pensée se résume, il vaut mieux être jeune, riche et en bonne santé que pauvre, machin, chose. Alors, c'est d'accord, mais comme c'est un truc d'une grande banalité, il va essayer de montrer comment cette pensée assez sotte, pour te dire, j'ai tort de dire assez sotte, c'est une réalité. Eh bien, comment, justement, on va en faire un système, d'où un vocabulaire totalement incompréhensible. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu Bourdieu, mais enfin, moi...
On va essayer.
Moi, je le considère comme tel. Et puis, surtout, un escroc. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on dit, par exemple, moi, je suis, vous ne l'avez pas dit, mais je suis quand même un disciple essentiellement de saint Thomas d'Aquin, hein, la somme théologique. Et saint Thomas, c'est lui qui a pris l'idée d'habitus. Il a traduit « existe » d'Aristote par « habitus ». Et quand il parle d'habitus, il montre comment, justement, c'est une habitude. Hein, le clerc du quartier latin a un habit, des habitudes. Hein, c'est ça, l'habitude. L'homme de la cité, le juriste de la cité, a un habit, des habitudes, etc. Donc, quelque chose qui est éminemment collectif. Or, il a rapté ce terme, hein, dans ce livre qui s'appelle un livre qui s'appelle La distinction, hein, ce qui me distingue de l'autre, etc. Alors que fondamentalement, l'habitus en tout cas, et bien sûr, moi c'est ce que j'appelle l'idéal communautaire, hein, c'est-à-dire comment on va s'ajuster ces tribus, ces communautés les unes par rapport aux autres. Lui, quand il dit habitus, il dit habitude mentale, c'est-à-dire un truc psychologique. Alors que chez l'exil d'Aristote, et l'habitus de saint Thomas d'Aquin, c'est Ganzverschieden, hein, tout à fait différent. Vous comprenez pourquoi je considère que Durkheim est un escroc? Parce que maintenant, quand
Bourdieu,
Durkheim. je dis des bêtises en mon âge. Mais parce que, non, voilà, c'est tout. Maintenant, quand on dit habitus, on salive Bourdieu. Mmh. Voilà. Mmh. Alors que moi, j'essaie de dire non, chers amis, écoutez, attention, voilà, je vais arrêter là. Hein, voilà. Donc, du coup, nous eûmes quand même un déjeuner. Parce que j'ai eu ce poste à la Sorbonne contre Passeron. était un homme estimable et qui était un des disciples de Bourdieu. Voilà. Et il s'est trouvé que moi, mes livres étaient arrivés, j'étais nommé, etc. Passeron, qui est un homme estimable, n'avait plus écrit, etc. Puis, les livres de Bourdieu, c'est Bourdieu et Passeron, ou Bourdieu et Bolsonaro. Il y a toujours Bourdieu en B en avant, etc. Voilà, donc on a dit ce que je viens de vous dire, je lui ai dit.
Ou si je vous demande la thèse la plus absurde que vous ayez entendue, vous allez me dire Bourdieu, donc on peut passer à la question d'après, si vous voulez.
Je voulais dire la distinction de Bourdieu.
Voilà. Alors, que faut-il euthanasier en premier ? La gauche morale ou la droite gestionnaire ?
Non, c'est pas mon genre. Je vous ai dit tout à l'heure la mosaïque, c'est-à-dire que, comment expliquer cela ? J'étais disciple, vous l'avez rappelé, de Julien Freund. C'est lui qui m'a initié à Max Weber. Le savant et le politique. Voilà. Moi, j'ai toujours considéré que je n'étais pas un politique, mais je voulais en tout cas être un savant. Voyez. Et il y a eu d'ailleurs à l'époque un article, je l'ai regretté, mais après je m'en suis toujours revendiqué. C'était dans Libération, ma Fézoli, où il n'a pas de carte d'électeur, il n'a jamais voté de sa vie. Ce qui est vrai. Hein, ma tradition libertaire fait que c'était si. Donc du coup, moi, je ne suis ni de gauche ni de droite. Je trouve, vous avez raison, le moralisme de gauche est ennuyeux, la droite gestionnaire me fatigue. Mais c'est pas ça mon propos. Vous voyez, je pense que c'est un problème beaucoup plus général actuellement, qui fait que ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire ne sont plus en phase avec la réalité. Voilà. Et en particulier, ils ne comprennent pas ce qu'est le peuple. Moi, je suis un fils d'ouvrier. Je suis attentif à la sagesse populaire qui a nourri tous mes livres. Et donc, du coup, je ne peux pas euthanasier. Oui.
Éliminer, si vous voulez.
Éliminer. Les uns et les autres me paraissent totalement déphasés. Voilà.
Quel livre offrir à un énarque pour lui donner enfin une âme ?
Bon, ben écoutez, il y en a, bien sûr, il y en a un qui s'appelle La faillite des élites. De surcroît, j'ai écrit ce livre avec mon épouse. Hein, je suis marié depuis 57 ans avec elle, et c'est une énarque, donc le malheur de ma vie. Et de fait, on a écrit ensemble ce livre, La faillite des élites. Moi, en tant que théoricien, elle en tant qu'énarque. Voilà, donc s'il y avait un livre à conseiller
à un
énarque, c'est La faillite des élites, bien sûr.
Quel est le plus grand contresens qu'on fait ou qu'on a fait sur vous ?
Ma Fézoli de droite, d'extrême droite. Je viens de vous dire pourquoi c'est pas possible. Voilà, c'est tout. Et de fait, c'est ce qui régulièrement revient. Hein, on m'a qualifié, on m'a exclu de divers endroits à cause de ça, parce que je serais de droite ou d'extrême droite. Je pense que ce n'est pas un qualificatif qui me convient. Voilà.
Nietzsche ou Saint-Augustin ?
Ah ben les deux pour moi. Hein, c'est-à-dire que je lis les confessions de Saint-Augustin régulièrement. Je les ai à droite de mon lit encore, et régulièrement je lis. Et alors, ce serait plutôt Saint-Augustin. Mais Nietzsche et via Heidegger, puisque je suis quand même un heideggerien, hein, je parle là dans ce livre de la boisson que nous eûmes. Il m'a reçu 4 fois, Heidegger. Et on buvait.
Ça, c'est bien. Il buvait quoi ?
C'était le vrai problème. Vous n'avez pas lu mon livre.
Surtout, les auditeurs aimeraient bien savoir. moi, je pars du principe que je n'ai pas lu le livre pour que les auditeurs l'apprennent.
Écoutez-moi, il y a un chapitre sur le vin là-dessus. Hein, là. Et je me suis amusé à rappeler que Julien Freund, c'était le vin d'Alsace, Carl Schmitt, c'était le vin de Moselle, et Heidegger, le vin du Rhin, qui ne vaut pas grand-chose. Donc, on a eu un débat.
Mauvais vin.
Mais c'était un ivrogne, Heidegger. Hein, il était comme moi. C'était un ivrogne.
Mais un ivrogne avec du mauvais vin.
Moi, je qualifie cela du mauvais vin. C'est le vin du Rhin. J'ai épousé une Alsacienne. Je suis un amoureux du vin d'Alsace. Donc, vous comprendrez que je vais valoriser les Delsviker que je suis. Si vous les mangez chez moi, vous verrez.
J'attends votre invitation.
Les Delsviker, mélange noble.
Quelle épitaphe aimeriez-vous ?
Oh, ben oui, épitaphe, je vous ai dit. Déjà sur la tombe, d'obédience à une guerrienne, seul un dieu peut nous sauver. Voilà. Ce qui sera d'ailleurs, c'est prévu.
Merci Michel Maffezoli. Alors, je vous propose, on commence par le début. À savoir, votre village de mineurs du Languedoc. Alors, comment le prononce-t-on ? Grèce-Sac ou Grèce-Sac ?
Grèce-Sac.
Vous y êtes né donc en 1944. Qu'est-ce que cette enfance, votre enfance, a fait de vous ? Qu'est-ce qu'elle a marqué et que vous n'avez jamais oublié tout au long de vos réflexions, de vos travaux, de vos rencontres ?
Bon, je continue. Vous savez, un oxymore qui m'est cher et que je répète à tire-larigot, c'est l'enracinement dynamique. C'est-à-dire le fait que la plante humaine, tout d'un coup, se souvient qu'elle a besoin de plantes, de racines pour croître. Voilà. Et oui, ben moi, mes racines, c'est ce petit village de mineurs. Mon papa était mineur de fond, mon grand-père aussi d'ailleurs. Et il y avait là une sagesse. Alors c'était curieux parce que c'était un mélange. Il y avait un village de 3000 habitants, il y avait 600 Polonais, il y avait des kilos d'Espagnols, très peu d'Italiens. Mon grand-père était venu travailler là en 1896, mais il y avait 3 ou 4 familles. Vous voyez. Mais c'était cette espèce de mélange qui était là et qui donnait une vraie sagesse qui, pour moi, a nourri tous mes livres. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que on pourrait en parler longuement de cette... On est de son enfance comme d'un pays.
Hein, et alors justement, cette sagesse populaire, c'est en effet dont on parlait souvent.
Oui.
Qu'est-ce que le monde populaire et ce monde populaire vous a appris que l'université, les livres ne vous ont jamais appris, ne vous en prendront jamais ?
Non, mais les livres, moi justement, mes parents, alors que c'était la mode pour les jeunes de lire des bandes dessinées, je n'ai jamais lu de bandes dessinées. Chaque mois, je recevais un livre. C'était Idéal Bibliothèque ou Rouge et Noir, je m'en souviens plus que j'ai encore dans ma cave, etc. Donc j'ai lu beaucoup. Et de surcroît, j'étais un bon élève. Si bien qu'à l'époque, il fallait passer l'examen d'entrée en sixième, pour entrer en sixième. Donc j'ai passé l'examen d'entrée en sixième. Et comme mon père était mineur, je suis allé passer à Alès la bourse des mines que j'ai eue. Voilà. Ce qui m'a permis de rentrer au lycée et de faire un lycée Henri IV et puis de faire ma carrière universitaire que vous connaissez. Mais je garde toujours ma maison dans ce village, j'y vais régulièrement. Et je continue à discuter avec au bistrot, au café du commerce, avec mes amis de mon âge qui sont revenus à la retraite là dans ce village. Et je maintiens cette sagesse pour moi importante, c'est-à-dire que j'ai cité saint Thomas d'Aquin, hein, omnis potestas ad Deo per populum, hein, c'est sa grande phrase, hein, tout le pouvoir à Dieu par le peuple. Et moi, je considère que c'est ça la sagesse populaire. C'est-à-dire que de fait, il y a quelque chose de un média, et le peuple est le média. Et c'est amusant de voir que ces pseudo-démocrates de nos jours, gauche et droite confondus, démocrates, c'est-à-dire censément célèbrent le pouvoir du peuple, sont tout simplement très peu démophiles et parfaitement démophobes. Une des manifestations de cette démophobie, c'est le fameux terme qui est employé fréquemment, populisme. Mmh. Le peuple pue du cul, pour eux, vous voyez, si je puis le dire un peu simplement. Voilà. Et d'une certaine manière, pour moi, c'est le contraire. J'ai considéré que tout ce que par après j'ai écrit dans, je ne sais plus, une quarantaine d'ouvrages qui sont les miens, je n'ai fait d'une certaine manière que, comment dire, que systématiser, hein, que j'ai traduit, bien sûr, dans un langage universitaire. Hein, c'est quoi cette sagesse populaire ? Les formes de solidarité, les éléments de partage. Hein, quelque chose qui font reposer la vie sur l'échange. Voilà, par exemple, voilà ce qui me paraît être cette sagesse populaire. Et quand je parle maintenant de l'idéal communautaire, je ne fais que traduire cela, hein, en montrant comment, d'une certaine manière, il y a, au travers de ces éléments archaïques que je viens de dire, en grec, arché, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental. À partir de ces éléments archaïques, c'est ça la sagesse populaire. Eh bien, c'est ce qui fait qu'on peut vivre ensemble, on peut être ensemble. Voilà.
Alors, vous avez eu, on va dire, 2 maîtres principaux. Julian Freud, dont vous en avez parlé, Gilbert Durand. 2 maîtres très différents. Qu'est-ce que chacun vous a donné et que l'autre n'aurait pas pu vous donner ou apporter ?
Bon, ça, c'est les hasards de l'existence. Hein. Je crois que j'ai cité Léon Blois tout à l'heure.
Oui.
Il disait... Le hasard, c'est le nom moderne du Saint-Esprit. Donc, le hasard a fait que, amoureux de la pensée allemande, moi, je suis du sud de Béziers, Montpellier, je suis allé faire mes études à Strasbourg. Ah. Et c'est là où, grâce à Julian Freud, j'ai rencontré Schmitt. Hein, j'ai été invité par... peut-être je suis un des derniers Français qui a rencontré Heidegger, puisque c'était ma thèse de l'époque, hein, la technique chez Heidegger. En 1969, hein, voilà. Et il m'avait reçu à cette époque. Alors voilà le premier, hein, c'est-à-dire le fait que mes études. Le hasard encore a fait que j'ai obtenu mon premier poste d'assistant à Grenoble. Pourquoi, j'en sais rien, c'est ainsi. Voilà. Et Grenoble, c'est là où travaillait, où dominait Gilbert Durand. Hein. Et du coup, en 72, j'étais nommé assistant. Voilà, ben, je suis rentré dans sa mouvance. Ça a été un coup de foudre. Là, c'est La Vie Quotidienne, Julien Freund. C'est ça. Hein. J'ai créé un centre qui s'appelle Centre d'études sur la vie quotidienne. Et l'autre, c'est L'Imaginaire. Avec, et pour moi, c'est cette espèce de conjonction qui a marqué toute ma carrière. Penser à ce qui est en bas, le quotidien, en fonction de ce qui est en haut, l'imaginaire, c'est-à-dire nos rêves collectifs, nos fantasmagories. Voilà les deux. Alors, j'ai créé ce centre qui s'appelle le Centre d'études sur l'actuel et le quotidien, en rendant attentif à cela, hein, qu'il y a des choses substantielles qui s'actualisent. C'est ça une idée un peu, encore une fois, aristotélicienne. Et de l'autre côté, cet imaginaire, dans cette vieille tradition franchouillarde, hein, depuis Malebranche et Descartes, on ne sait pas si c'est l'un ou si c'est l'autre, considérer que l'imagination, c'était la folle du logis. Ça ne permettait pas le bon fonctionnement du cerveau. Et c'est une vieille tradition française. Hein. Je rappelle pour mémoire que ce pseudo-philosophe qu'on appelle Jean-Paul Sartre, par exemple, hein, quand il écrit son premier livre, 1936, sur l'imaginaire, il reprend la formule de Malebranche ou de Descartes. Hein. L'imagination, c'est la folle du logis. En 1938, il fait un autre livre du même ordre, pareil. Et ce n'est que très tardivement, et c'est Gilbert Durand, hein, sa thèse qu'il fait avec Bachelard, qu'il publie en 1960, Structure anthropologique de l'imaginaire. Voilà ce qui m'a marqué. Je m'explique bien un peu ces deux éléments qui, moi, ont conduit ma pensée et qui me paraissent être particulièrement d'actualité.
Et lequel, alors vous allez me répondre les deux, mais peut-être aussi un autre intellectuel que vous n'avez pas forcément connu, lequel des maîtres ou de vos références vous accompagne encore le plus aujourd'hui?
Vous voulez dire de ces deux?
Ou d'autres?
Non, si vous voulez...
Qui est vraiment sur votre table de chevet.
Préalablement à mes tribus, l'an dernier, j'ai publié le premier tome de mes mémoires qui s'appelle Apologie. Et dans Apologie, je fais référence, plus que dans celui-ci, aux gens qui m'ont influencé. Et j'ai eu cette chance... J'avais 37 ans quand j'étais nommé à la Sorbonne. C'est qui est prof, pour être un prof titulaire, est assez rare. Voilà. Mais du coup, il y avait ce côté assez hiérarchique à la Sorbonne. Du coup, on ne mangeait qu'entre profs, même pas les maîtres de conf, etc. Et du coup, ben voilà, j'ai rencontré Deleuze, j'ai rencontré Lévi-Strauss, j'ai rencontré Michel Foucault. Et voilà les gens qui m'ont marqué. Je rappelle les discussions et les oppositions, par exemple avec Lévi-Strauss. Hein, il était à la fois tout opposé à ce que je disais, sur les tribus en particulier. Et en même temps, on avait des discussions passionnantes. Michel Foucault, c'est pareil, il me recevait pendant longtemps chez lui. Et quand j'étais nommé, il m'a dit « Michel, il n'y a rien sur l'homosexualité à la Sorbonne, par exemple ». C'était pas chic à l'époque, mais non, c'est banal. Et j'ai créé un centre d'études de recherche sur l'homosexualité en 82. Et donc c'était, voilà, je le referai pas maintenant, mais disons que à l'époque c'était intéressant d'avoir, voilà, par exemple, Foucault, Lyotard, bien sûr Deleuze avec qui j'ai souvent discuté, échangé, et bien d'autres. Enfin voilà, je vais pas faire la liste de tous ces gens, mais je suis respectueux personnellement des maîtres.
Alors, c'est quoi un bon maître? Est-ce qu'on peut le définir? Est-ce qu'il y a des qualités requises? Est-ce que vous êtes un bon maître, par exemple?
Écoutez, ça, il faudra le demander à mes étudiants. Je fais passer 270 thèses dans toute ma carrière. Donc, il faudra leur demander. Quand on a fêté mes 80 ans en Sorbonne, il y a 2 ans, il y avait quand même 200 personnes qui sont venues et ça a donné lieu à un colloque qui, de mon point de vue, n'était pas négligeable. Donc, je ne vais pas parler de moi. Pour ce qui, par contre, mes rapports avec mes maîtres, je rappelle cette formule que l'on dit souvent sans s'en souvenir de Bernard de Chartres, hein, nous sommes des nains hissés sur les épaules des géants. Oui, moi je me suis senti comme cela, hein, c'est-à-dire que c'est grâce à eux, ou comment dire cela, on prend ma règle essentielle, moi je le dis à mes étudiants et je l'ai fait avec ces maîtres-là, il faut savoir métaboliser et déféquer. Voilà, donc c'est ça la bonne santé. Mais c'est ma réponse.
Rémi Carlu.
Oui, peut-être pour revenir un petit peu en amont, comment est née votre vocation pour la sociologie et pourquoi cette discipline plutôt que d'autres parmi les sciences humaines?
Non, ça c'est totalement ridicule de mon point de vue. C'est-à-dire que j'avais deux thèses, une thèse en philo, une thèse en socio. Le hasard, encore une fois, a fait que le poste qui m'a été proposé était un poste de sociologie. Voilà. Et donc du coup, ben voilà, je suis rentré, j'étais maître assistant à Grenoble, je suis revenu maître assistant à Strasbourg en 78, et j'étais nommé en 81 à la Sorbonne en sociologie. Voilà. Mais vous avez compris, c'est pas un choix personnel. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette personne que vous aimez beaucoup, Bourdieu, lui, justement, était très opposé à moi en partie, enfin pour diverses raisons, mais pour un problème théorique, c'est-à-dire qu'il voulait faire de la science, lui. Et donc, en faisant ce que j'ai fait, moi, de la philosophie sociale, puisque c'est ça mon propos, c'était pas bien. Voilà. Alors que ce que j'ai enseigné à mes étudiants, c'est qu'il fallait dépasser, justement, cette dimension disciplinaire. Hein. Ma vieille grand-mère disait, il n'y a que des cornichons qu'on met dans des bocaux. Voilà, donc, j'avais un poste de sociologie générale, la chaire Durkheim, mais j'ai toujours, dans mes livres, dans mon enseignement, essayé de rendre attentif, j'en sais rien, moi, à la philo, à l'histoire, à la poésie, etc. Et dans ce que j'ai écrit, ben, je faisais mon miel de toutes ces fleurs. Voilà un peu, si vous voulez.
Justement, cher Michel, moi, j'ai fait mes études à Grenoble, justement. Je me rappelle tout à fait, d'ailleurs, de ce séminaire que je n'ai pas suivi, mais sur l'imaginaire, qui était en effet un pôle important. Je me rappelle qu'il y avait à l'époque, d'ailleurs, un professeur assez renommé qui avait fait tout un travail sur les vampires dans la littérature qui était relié à ce département. Et je me souviens aussi que c'était... Alors, à cette époque, c'était la fin un peu de ces confrontations, on va dire, mais il y avait encore le poids du marxisme qui est en train de s'effondrer un peu, me semble-t-il, à l'époque dans l'université française. Il y avait la psychanalyse qui avait encore beaucoup de poids, qu'il a un peu perdu depuis. Vous étiez sans doute un précurseur, parce que finalement, vos biais d'hybridation des différentes disciplines et de cet intérêt aussi à l'imaginaire sont avérés beaucoup plus fertiles et prometteurs que ces systématismes, on peut dire, un peu écrasants, issus du 19e siècle. Quelle était l'ambiance de ce que vous avez pu vivre, vous, dans les universités, entre ces différentes écoles de pensée, ces différentes tendances et leur affrontement comment vous l'avez vécu ?
À Grenoble en particulier, c'était quand même le trotskisme qui était important à l'université des sciences sociales, je ne sais plus comment ça s'appelait, ça a changé de nom, etc. Mais avant de parler de moi, il y avait quand même déjà l'œuvre de Durand, j'insiste, oui. Justement, qui avait court-circuité un peu ces enfermements. Voilà. Alors c'est vrai que je vois au département de sociaux, je ne vais pas donner de nom, d'ailleurs ils sont morts, Dieu merci, les sociologues de l'époque, et... c'était une dominante trotskard, en bref. Et par après, Strasbourg, ça a été différent. Hein. Il y avait une vieille tradition. J'étais nommé maître assistant à Strasbourg. C'était Julien Freund qui m'avait fait venir pour diriger l'Institut de polémologie qu'il avait créé lui-même. Et puis, il y avait cette grande influence heideggerienne aussi qui faisait qu'il y avait une ouverture beaucoup plus large. Mais quand je suis j'étais nommé à la Sorbonne, ben là, non, c'était pas facile. Hein. C'était, on dit sociologue, on dit de gauche.
Oui.
Voilà, en gros.
En France, oui, c'est sûr.
Et vous avez compris que c'était pas mon cas. En même temps, bon, ils ne foutaient pas grand-chose, ces professeurs. Ça, je les ai appelés les rentiers de la République. Hein, on avait 3 heures de cours par semaine, nous. Hein, c'était ça, le statut. Vous voyez mais de fait, et mes maîtres, et puis moi, je m'y suis employé, d'une part à faire passer des thèses, et puis d'autre part à lire, à travailler. Moi, je n'ai jamais répété mon cours. Une année sur l'autre, vous voyez, changé. Alors que mes chers collègues ne foutaient pas grand-chose. Voilà, hein, quoi qu'il y ait, les 3 heures de cours, je dis bien rentier de la République. Voilà. Et pour ma part, moi, c'est le contraire que je me suis employé à faire le contraire, c'est tout. Hein, essayer de rappeler ce qu'était, vous voyez, quand en 1253, la Sorbonne est créée, c'était justement pour lutter contre l'école cathédrale, en bas. Hein, c'est-à-dire qui formait les fonctionnaires du moment, c'est-à-dire les curés. Et quand Sorbonne, et pas que Sorbonne, mais enfin, disons, quand se crée l'Universitas, hein, c'est-à-dire justement avoir cette dimension multidimensionnelle. Hein. Il y avait la théologie, certes, il y avait la philo, le droit, la médecine, etc. Et donc, c'est ça que moi, j'ai continué à essayer de faire. Je suis resté dans cette vieille idée de l'Universitas. Voyez. Et mes chers collègues, non, ben voilà, quoi, ils avaient des systèmes de pensée, etc. Le problème, c'est que mon amphidurium était plein. Le leur était vide.
Ça crée des jaloux.
Pardon ?
Ça crée des jaloux, après.
Ben, en fait, oui, mais on s'en fait. Ça, ça fait à mon âge. Et puis, mon milieu fait que je sais me dépatouiller avec ces espèces d'oppositions, etc. Hein. Une des belles pensées de Pascal qui m'avait marqué, il disait justement, la pensée, c'est un combat. Ce n'est pas forcément la victoire. Voilà. Donc, voilà ma réponse.
Est-ce que vous pensez que c'est plus compliqué encore aujourd'hui? Est-ce que Michel Maffezoli aurait réussi à faire tout ce qu'il a fait s'il était devenu universitaire au début des années 2000?
Ça, je ne peux pas trop répondre. Ça fait 12 ans que j'ai pris ma retraite en 14. Donc, ça fait déjà un paquet de temps. Et de fait, je n'ai plus gardé de contact.
Vous n'avez plus aucun contact
avec mes chers collègues. Non, ces générations qui étaient la mienne et celle qui est arrivée après sont restées dans ce que Durkheim appelait le conformisme logique. C'est ça la bien-pensance. On ne fait que répéter ce qu'il convient de répéter, alors que moi j'ai été éduqué par une génération précédente très diverse. Les Balandier, les Thomas, les gens que j'ai cités tout à l'heure. Il y avait la disputatio académique. Il y avait cette idée, encore une fois, que cela se faisait souvent chaque mardi au restaurant. Hein. Vous savez l'étymologie du mot symposium en grec, vous le savez.
Ah non.
C'est boire du vin ensemble.
Ah, c'est bien.
Symposium.
C'est ce qu'on fait tous les soirs.
Bon, sans le savoir. Et donc, il y avait chaque mardi, je me souviens, rue Saint-Jacques, là, ce rassemblement, que les profs d'ailleurs, et ça papotait, ça discutait, c'est la disputatio, voilà, c'est tout. Moi, je considère qu'actuellement, c'est plus ce qui est en train de se passer.
Et à quel moment vous avez vu une bascule? Pourquoi ça a changé?
J'en sais rien, moi. Si, je sais quand même.
Bon, vous l'avez vécu, donc j'espère que vous avez quand même vu. C'est embêtant pour un sociologue.
Bon, prof. Un de mes... quand même, on a une idée dans sa... Hein, c'est Heidegger qui dit ça. On a une idée dans sa vie. Anna Arendt l'a repris. Elle reprend Nietzsche, justement, en disant ça. Moi, mon idée, la seule idée que j'ai eue, à partir desquelles j'ai essayé de développer un certain nombre de choses, ben voilà, c'est que... Il y a non pas le système, mais le questionnement. La question. Hein. Quand Aristote, par exemple, veut montrer la différence entre la doxa, l'opinion, et la pensée, la philosophie pour lui, il dit bellement en grec d'ailleurs, kalos apoiorestai, c'est-à-dire poser bellement des problèmes, des apories même, apoiorestai. Bon. Et donc voilà, moi je me suis employé à avoir ce questionnement, alors que par après j'ai vu qu'il n'y avait plus de questionnement. C'était plus la question qui était importante, c'était le système, c'était la sûreté, c'est ce qu'on appelle maintenant le correctness, la bien-pensance, machin chose, etc. Enfin, tous ces éléments-là. Alors, je considère qu'il y a là deux générations qui sont restées sur ce conformisme. Pour tout vous avouer, je reçois chaque semaine, chaque vendredi, un petit apéro, j'appelle ça apérologie d'ailleurs, pour jouer sur ces mots du logos et de boire ensemble. Des petits jeunes, 25 ans, 22, 23, 25 ans, 27 ans, etc., qui ont lu mes livres, Internet aidant, sont rentrés en contact avec moi. Moi, ma porte est ouverte, et donc maintenant, c'est un rituel depuis 3 ans, si vous voulez, il y a ces jeunes qui viennent discuter avec moi, philosophes, sociologues, Sciences Po, juristes, etc. Bien. Et pour tout vous avouer, c'est là que j'apprends énormément de choses. Vous voyez, là, c'est cette génération qui à mon avis, va régénérer l'université. Voilà peut-être que je me trompe, c'est un truc d'un vieux mec, mais voilà ce qu'est mon sentiment, parce que je vois qu'il y a une vraie vitalité, des vrais débats chez ces jeunes.
Il y a une soif de débat. Oui,
qui font des revues, des trucs comme ça, passionnant. Voilà, je ne sais pas si je vous réponds, mais voilà un peu, si vous voulez, autant il me paraît qu'il y a eu une vraie dégénérescence, autant il y a une espèce de renaissance. Mais là aussi, c'est une structure anthropologique. Décadence, renaissance. On le voit régulièrement.
Chers auditeurs, vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous recevons donc Michel Maffezoli pour son nouveau livre publié au Cerf, Mes tribus, souvenirs, pensées, rencontres. Donc on parcourt la vie, alors vraiment par des petits bouts parce que la vie est grande, de Michel Maffezoli. Et évidemment, nous allons revenir dans quelques instants sur le cœur de son sujet, de son œuvre, les tribus, et savoir un peu ce qui se passe aujourd'hui, savoir un peu comment on peut décrire ou mettre des mots sur cette postmodernité. Mais vous savez que Radio Courtoisie est une radio libre et donc qui dépend uniquement de vos dons. Donc écoutez ce message et on se retrouve tout de suite après.